Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Chose Commune, votre magazine centré sur le développement durable, les initiatives citoyennes, l'insertion et l'économie sociale et solidaire. Et d'économie sociale et solidaire, il va en être beaucoup question aujourd'hui puisque nous sommes avec deux représentants de la régie de quartier de Vendôme, une structure importante et porteuse de beaucoup d'initiatives sur le Vendômois. Je suis donc en compagnie de deux de ces représentants, comme je le disais. Bonjour Charles et bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
Je vais vous laisser vous présenter votre fonction au sein de la régie de quartier et puis de manière assez générale, on va rentrer dans les détails après. Quelles sont vos fonctions au sein de cette régie de quartier du Vendômois?
Alors moi, Sandrine, je suis coordinatrice sur la ressourcerie. Ça fait 10 ans que je travaille à la régie de quartier de Vendôme et du coup, je l'ai vu se développer jusqu'à très récemment, énormément. Et du coup, je m'occupe essentiellement de faire en sorte que tout marche et fonctionne bien sur les magasins, sur tout ce qui concerne nos activités à l'extérieur d'événementiel, nos participations à des ateliers, également sur tout ce qui est le rapport à nos bénévoles et puis tout ce qui est traçabilité sur nos dons, puisque nos généreux donateurs font que notre magasin et nos magasins maintenant depuis juin, nous en avons un deuxième en centre-ville de Vendôme, que tout ça fonctionne très bien.
On va reparler de la ressourcerie, je pense, d'une manière assez générale. C'est la partie visible de l'iceberg. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Charles, est-ce que vous pouvez vous représenter également?
Bien sûr. Charles Lavarenne, je suis le directeur de la régie depuis 4 ans. Et donc, en tant que directeur, j'applique un peu les décisions du conseil d'administration. Et puis, j'essaie d'être un peu le chef d'orchestre de toutes les activités de la régie, dont effectivement la ressourcerie est une des activités, mais pas la seule.
Vous parliez d'un conseil d'administration, ça veut dire projet associatif. Comment est né, est-ce qu'on peut refaire un historique assez large, assez général de cette naissance, de cette association qui est la régie de quartier donc?
Oui, bien sûr. Donc la régie de quartier a été créée à l'initiative de la ville il y a maintenant 33 ans. L'objectif pour la ville, c'était de faire en sorte qu'il y ait une structure qui fasse du lien social sur notamment le quartier prioritaire, qui fasse aussi du coup de la lutte contre l'exclusion, de l'embellissement de territoire et qui puisse construire avec les habitants des projets pour faire en sorte que le quartier puisse être plus vivant et plus accueillant.
Et on donc, est au cœur du quartier de Courtira, on le précise quand même pour les gens qui, voilà, notamment les auditeurs blésois qui connaissent pas forcément bien Vendôme, donc on est à Courtira, ouais.
Alors là, effectivement, donc nos locaux sont depuis 12 ans basés dans la rue de Courtira, mais initialement, on était vraiment au cœur du quartier prioritaire.
Des Rottes, ok.
Voilà, des Rottes. Et après, nous, en tant que régie de quartier, on appartient à un mouvement national, le mouvement des régies. Donc c'est des structures, il en existe 130 à peu près au niveau national. Et l'objectif de ces structures, c'est vraiment ça, d'être au cœur des quartiers et de porter la parole des habitants et de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des habitants et de proposer beaucoup plus d'actions de territoire. Donc il y a une particularité dans nos conseils d'administration, c'est qu'on a des collèges d'élus de la ville, on a aussi un collège d'habitants. Et historiquement, on avait aussi un collège de bailleurs sociaux, mais bon, les bailleurs sont pour l'instant un peu désengagés. Mais voilà, en tout cas, dans le projet régie, il y a l'idée d'avoir un conseil d'administration qui est à plusieurs têtes, et notamment pour échanger entre habitants et élus de la ville.
Donc l'économie sociale et solidaire, elle est au cœur des projets de régie de manière générale, donc du vôtre évidemment. Comment ça se traduit on a parlé de la ressourcerie, par quelles autres initiatives? Par quelles autres actions, quels autres projets, ce terme assez générique qu'on a besoin de réexpliquer, de détailler souvent, ça se concrétise ici à Vendôme?
Alors déjà, nous, on est une association loi 1901, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour mission d'être à but non lucratif. Donc toute l'économie qui est générée autour de nos activités est vraiment là pour être réutilisée sur le territoire. Donc dans des projets de lien social, dans tout un tas de choses. Et aussi par rapport à nos salariés, puisque du coup, on porte une mission d'insertion professionnelle. Donc on est labellisé chantier d'insertion. auprès de la direction du travail, ce qui nous permet en fait d'aller chercher des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Alors très éloignées, c'est au minimum 2 ans, ou des personnes qui ont des grandes difficultés liées à leur employabilité. Ça peut être des handicaps liés à l'âge, liés au fait qu'ils sont primo-arrivants et qu'ils n'ont pas encore toutes les règles du jeu ou les niveaux de français nécessaires. Donc on embauche des gens qui sont très très éloignés de l'emploi et l'idée c'est de les mettre en selle pour faire en sorte que de leur trouver des solutions pérennes derrière. Donc pour ça, on leur propose des contrats entre 20h et 28h chez nous. On les embauche sur différentes activités dont on va pouvoir reparler juste après. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que pendant le laps de temps où ils sont chez nous, on leur donne les bonnes habitudes de travail et on va chercher aussi tout un tas d'entreprises pour faire en sorte de leur trouver des solutions derrière. Voilà, donc ils sont là provisoirement avec nous, entre 4 mois et 2 ans maximum. Et l'objectif, c'est pas vraiment de les garder, mais au contraire, c'est de leur donner toutes les billes pour pouvoir s'insérer après.
Qu'ils puissent s'insérer ailleurs.
Au milieu ordinaire, on va dire.
Et retrouver voilà, une employabilité pour voilà. Employer le terme un peu technique et pas très joli de l'insertion professionnelle. Comment vous sont envoyés ces profils d'insertion ? Est-ce que c'est France Travail ? Est-ce que c'est les réseaux voilà, type CADA, puisqu'on parlait de personnes qui sont pas forcément francophones ? C'est tous ces réseaux là qui sont installés ou ça vient d'autres moyens?
C'est exactement ça. En fait, du coup, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme de l'inclusion qui nous permet en fait d'aller piocher dans ce vivier de personnes qui ont été orientées par des prescripteurs. Alors effectivement, le principal prescripteur, c'est France Travail. Et après, il y a les missions locales, il y a le CADA, il y a le foyer des jeunes travailleurs. Enfin, il y a tout un tas de prescripteurs de territoire qui peuvent faire en sorte de s'assurer que les gens correspondent aux critères qui sont nécessaires pour pouvoir avoir un contrat de travail en insertion. Et à partir du moment où les critères ont été vérifiés et qui sont sur la plateforme, libre à nous de faire des entretiens d'embauche quand on a des besoins de recrutement pour pouvoir les embaucher sur tout un tas de métiers.
Et donc entre ces 4 et ces 24 mois de présence dans vos structures, quel est leur parcours ? Est-ce qu'ils ont des formations qui sont préconisées, qui sont dispensées ? J'imagine le lieu du le cadre collectif aussi entre des personnes qui sont qui ont des difficultés d'emploi mais qui sont françaises enfin ou qui parlent français, donc j'imagine qu'il y a aussi une dynamique collective qui s'enclenche. Formation par les pairs, on pourrait dire presque.
Oui, alors il y a énormément de choses qui sont travaillées sur l'atelier chantier d'insertion. Il y a le côté production, donc on les remet au travail. Il y en a qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps. On adapte aussi le travail à leur capacité, hein, qu'elle soit parfois à cause du handicap, notamment, parfois à cause de la langue, comme le disait très bien Charles. Et puis, en parallèle de cette activité de production sur les différents chantiers dont Charles reparlera après, il y a tout l'aspect projet socio-professionnels, on travaille le projet professionnel, la recherche d'emploi, ils vont pouvoir avoir accès à des formations, ils vont pouvoir avoir accès à des périodes de mise en situation professionnelle, ils vont pouvoir aussi avoir accès à des missions d'intérim si ils trouvent un emploi et que voilà, ils ont envie d'y aller, ils peuvent y aller et puis revenir sur le chantier après. Ils vont pouvoir être accompagnés aussi sur le volet social, parfois pour de la recherche de logement ou pour des microcrédits. Enfin, il y a énormément de choses qui sont travaillées pendant le parcours en complément du travail de production.
Tout ça donc pour valoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle et pas que professionnelle, sociale aussi, j'imagine ça a d'autres vertus.
Pour donner le plus de chance à ces personnes de se servir de cette structure comme d'un tremplin en fait. Pour rebondir.
Donc, pour bien comprendre, ils sont encadrés en permanence par des encadrants techniques qui sont en fait des chefs d'équipe, mais avec une double compétence et une compétence
qui eux sont des salariés permanents.
Voilà, des salariés permanents. Les salariés permanents à la régie de quartier, actuellement, on est une vingtaine. Enfin, on est 20 même, c'est pas une vingtaine, c'est 20. Et du coup, on a des encadrants techniques, actuellement ils sont 9 en poste, qui ont une double compétence. Une production particulière, ça peut être par exemple sur notre chantier espace vert, des compétences spécifiques sur les espaces verts, et une compétence d'accompagnement social, puisque l'objectif c'est bien de faire en sorte que le salarié il soit mis dans une situation d'apprentissage et de production, voilà, donc le respect des règles, des collègues, collègues, du port des EPI, monter en compétences techniques, etc. Donc ça, c'est les encadrants techniques qui sont là vraiment au quotidien, en permanence avec les salariés. Et à côté de ça, on a des conseillères en insertion professionnelle, enfin je dis au féminin parce que chez nous, il y a deux conseillères en insertion professionnelle qui sont là pour faire des entretiens réguliers avec les salariés pour creuser la suite du parcours. Donc, quels sont les besoins de formation pour pouvoir décrocher des postes, quels sont les projets personnels et professionnels, mais est-ce qu'ils sont en adéquation avec les recruteurs de notre territoire? Parce qu'on peut avoir tout un tas de projets, mais si jamais il n'y a aucune structure qui est susceptible de les embaucher sur ce projet-là, ou que l'idée n'est pas très réalisable par rapport au parcours de vie de la personne, bon, voilà, on réadapte évidemment. Et puis ces conseillers en insertion professionnelle vont beaucoup discuter avec les entreprises pour comprendre quels sont leurs besoins en fait de personnel et quels sont leurs critères de recrutement. Parce que du coup, l'idée, c'est quand on va proposer un salarié à une entreprise, faire en sorte qu'il soit complètement déjà adapté à la situation. Et on a une arme secrète qui est effectivement, comme le disait Sandrine, les PMSMP, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, ce qui en résumé est une forme de stage où on propose le salarié à l'entreprise, mais nous on fait un maintien de salaire donc payé par la régie, on s'occupe de toutes les démarches administratives, on s'occupe des assurances et autres, donc l'entreprise n'a que de l'accueil à faire. Si le salarié convient, l'entreprise peut la garder. Nous on a des autorisations de la direction du travail pour pouvoir arrêter
des CDD,
des contrats à tout moment, exactement. Et si jamais la personne ne convient pas pour un tas de raisons, dont on fait le bilan avec l'entreprise, la personne peut revenir en poste chez nous, c'est pas du tout un problème.
Sans rentrer dans des statistiques qui seraient un petit peu imbuvables, est-ce que vous avez un retour malgré tout de l'employabilité des gens qui sortent de la régie de quartier du Vendômois sur les derniers mois, sur les dernières années? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes satisfait du taux de retour à l'emploi des gens qui passent par chez vous?
Alors satisfait oui et non, puisqu'on pourra toujours mieux faire, hein, évidemment. On a une obligation légale par rapport à la direction du travail, c'est de faire en sorte qu'au moins 60% des salariés soient dans des sorties dynamiques. Quand on parle de sorties dynamiques, c'est soit des sorties en emploi, soit sur des formations qualifiantes qui leur permettront après de décrocher un emploi. Bon, ben nous, statistiquement, on remplit complètement nos obligations. Après, évidemment, on serait satisfait si jamais on éteignait le taux de 100%. Hein. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on arrive en début de chaîne par rapport à cet accompagnement. C'est-à-dire que les gens qu'on a chez nous sont ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Donc, des fois, ça prend aussi beaucoup de temps. Sur le Vendômois, où on a une population qui est un peu vieillissante, on peut se retrouver aussi avec des personnes d'un certain âge, passé 55 ans, dont les recrutements après en emploi classique sont un peu plus compliqués. Souvent, elles ont des problèmes, des parcours de vie un peu chaotiques, avec des problèmes de dos, avec souvent des problèmes de mobilité. Alors là, l'employabilité, elle est assez compliquée. Donc malheureusement, on n'a pas 100% de réussite, et puis c'est pas toujours simple.
Parlons de la ressourcerie, comme je disais, la partie visible de l'iceberg. Donc ça a longtemps été un magasin, donc ressourcerie, hein, rappelons la méthode principale de réachat en réemploi et en réutilisation. Comment se passe le cycle d'un objet qui est remis en vente sur les étals de la ressourcerie, et puis de la gestion globale de ces deux établissements, puisque maintenant vous avez aussi un établissement en centre-ville là.
Oui, alors oui, effectivement, maintenant on en a deux, et tant mieux, parce qu'on a de plus en plus de choses qui nous arrivent. Le réemploi, c'est quelque chose qui dans la vie des gens devient un réflexe, et tant mieux, on a tout à y gagner.
Est-ce que ça représente pas non plus une charge de travail croissante et difficile à gérer au quotidien, de voir chaque année de plus en plus de volume qui vous arrive?
Alors oui, effectivement, on peut voir ça comme ça. Il y a plusieurs aspects effectivement à ce phénomène, c'est-à-dire que on a la chance de recevoir beaucoup de dons et de plus en plus de dons, ce qui fait que notre activité, elle grandit et elle grossit, et on a une offre qui est de plus en plus large et intéressante pour les gens qui sont intéressés à consommer de seconde main. On est aussi un peu victime de la société consumériste qui fait que les gens achètent beaucoup plus, beaucoup trop, et que maintenant, après la fast fashion, on a aussi la phase déco, enfin on s'en sort plus. Bientôt ça va être le fast ameublement. C'est les travers de la société qu'on connaît, mais si on pousse la logique...
Vous êtes au premier loge de toutes ces dérives, de ces actes de consommation.
Mais quelque part, bon, on aurait quand même beaucoup moins de succès en termes de dons s'il n'y avait pas cette société consumériste, c'est-à-dire que plus les gens achètent, plus on reçoit. Alors après, c'est la qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous.
Et donc là, vous avez un process de tri, justement, de ce qui vous arrive. J'imagine que tous les cartons qui vous arrivent chaque semaine, chaque mois, ne se retrouvent pas à un moment donné dans les étals de vos magasins.
Alors, évidemment, il n'y a pas que des bonnes choses qui nous arrivent, puisque depuis plusieurs années, on a quand même le réflexe d'accepter tous les dons qu'on nous apporte. Donc on doit gérer aussi le côté, il y a quand même un petit peu de déchets dans ce qu'on nous donne, hein. Faut pas le nier. Néanmoins, les dons sont quand même de qualité, il y en a de tout type, hein. On n'a pas que des choses de grandes marques ou qui valent très cher, mais sur une ressourcerie comme celle de Courtira, par exemple, où le choix est fait de proposer tout type d'objets, du plus modique au plus cher, force est de constater qu'on a de la clientèle pour tout type de choses, en fait. Donc, en fait, tout se vend. J'irais même plus loin, on n'a pas assez d'espace pour tout proposer, parce qu'on pourrait même proposer des choses qui sont à notre regard à nous, pas réutilisables, pas par nous en tout cas, mais par des gens qui font des sculptures ou des plasticiens. On pourrait être une manne extraordinaire de matières premières.
Charles, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, pour bien comprendre un peu aussi la genèse en fait de la création de cette ressourcerie, c'est à l'initiative de Valdem, qui est notre syndicat de gestion des déchets, qui s'est dit à un moment, il faut détourner des bennes, des encombrants, ce qui peut être réutilisé. Créons sur le Vendômois une ressourcerie en lien avec la régie de quartier, puisque du coup on avait déjà des chantiers d'insertion, on avait une activité de friperie où on récupérait le textile et puis on le revendait déjà à l'époque, et à ce moment-là du coup, en lien avec Valdem, on a décidé d'ouvrir une ressourcerie généraliste, c'est-à-dire qu'on récupère tous les types d'objets, tout ce qui potentiellement peut être réutilisé ou réemployé. On peut nous apporter des vélos, des meubles, des livres, de la déco, de la vaisselle, des bibelots, enfin je vous passe, mais y compris du textile, de la mercerie, tout. Donc pour ce faire, les gens peuvent nous apporter directement dans notre zone d'apport volontaire qui jouxte le magasin, donc rue de Courtiras, et on organise aussi des vides maisons. Donc,
c'est vous qui organisez ce genre de choses sur le Vendômois, d'accord. Enfin, voilà. Vous organisez certains, ouais.
Oui. Ok. Donc, et on est les principaux sur Vendôme. Donc on a 4 camions qui passent beaucoup de temps à aller collecter, chez les habitants. On collecte aussi auprès des bailleurs sociaux et voilà. Et donc une fois qu'on a récupéré tous ces objets, l'objectif c'est de leur trouver une seconde vie, quelle qu'elle soit. Donc la seconde vie principale, ça va être la revente directe dans nos magasins pour pouvoir financer aussi les salaires et puis toutes les opérations de lien social dont on va parler après. Mais en fait, si jamais l'objet ne correspond pas à nos objectifs de vente, il peut être aussi donné à des associations. Donc on a une vingtaine de partenariats avec des associations en tout genre. Et on collecte pour elles en fonction des besoins, en fonction des demandes, du tissu, des objets, enfin peu importe. Et puis après, si jamais l'objet n'intéresse ni nos magasins, ni les associations, il peut être aussi démantelé dans les filières pour faire en sorte que la matière puisse être réutilisée.
Le recyclage final, on va dire.
Voilà. Donc on a des bennes spécifiques dans lesquelles vont les matières, et après ces matières sont traitées, alors après pas par nous, mais du coup on démantèle en matière pour faire en sorte que ça soit réutilisé en tant que matériaux.
La régie de quartier organise, et je crois ici, il me semble, en tout cas peut-être pas que ici, mais des ateliers justement de réemploi, réparation de vélos, etc. Ça favorise aussi, j'imagine, la culture de cette économie sociale et solidaire, de cette culture du réemploi et de la réutilisation. Comment elles sont organisées, qui les pilote, comment ça se passe?
On en a plusieurs au jour d'aujourd'hui. On avait commencé il y a quelques années par rapport à l'upcycling, le surcyclage, donc pour faire des articles zéro déchet. On avait commencé par là. Alors du coup, c'était des textiles de seconde main qui étaient réemployés pour, par exemple, fabriquer des sacs à vrac, des protège-plats quand on met au frigo un petit reste de nourriture pour remplacer le film alimentaire, des essuie-tout en tissu et éponge, toujours avec des textiles de seconde main, pour remplacer le sopalin. Enfin, on a comme ça toute une série de petites choses qu'on, qu'on propose en atelier à la confection. Donc on apprend comment les faire, on les réalise, les gens partent avec. Et parallèlement à cette activité d'upcycling, il y a aussi tout un atelier vélo qui est piloté par Elsa. Et elle organise très régulièrement sur le territoire vendômois des ateliers vélo en proposant des ateliers d'auto-réparation. Donc les gens peuvent apporter leur vélo. Elle aime bien quand même en amont savoir de quoi il s'agit. Ça lui permet de préparer les pièces et de savoir un petit peu... d'être équipé pour pouvoir le faire.
On appelle pour dire je viendrai avec mon vélo, j'ai un problème.
On réserve sa place pour l'atelier et puis on peut venir réparer son propre vélo ou voire même réparer un autre vélo pour pouvoir l'acheter ensuite. Enfin, donc c'est des choses qui se développent encore aujourd'hui et on aimerait bien en faire de plus en plus.
Et on le fait aussi beaucoup en lien avec une autre association qui s'appelle Dodan, une association qu'on aime beaucoup.
Oui, voilà, sur nos antennes.
Et avec Dodan, du coup, l'idée, c'est de faire en sorte de concentrer nos forces pour pouvoir proposer encore plus d'ateliers d'autoréparation. Alors, Dodan propose aussi de l'upcycling sur la couture. Il propose aussi des ateliers vélo, mais qui se sont essoufflés puisque, du coup, le responsable de cet atelier, du coup, a fait le choix d'arrêter pour des raisons de santé. Et puis, également... il propose de la réparation de ce qu'on appelle le 3E, c'est-à-dire tout ce qui est électrique et électronique. Mmh. Et donc là, on a commencé à mettre en place des ateliers communs pour pouvoir mutualiser nos compétences, nos outils, et puis avancer plus dans la réparation. Donc n'importe qui peut venir avec
l'idée
son petit...
L'idée du café repair comme il en existe ailleurs, etc.
Ouais. Tout à fait. Donc les gens viennent avec leur
le
petit appareil,
ouais.
Et puis on voit avec eux si l'appareil est réparable et on ne s'interdit rien. Et l'idée, c'est d'ouvrir ensemble, comprendre la panne et puis de tenter de la réparer. Et on a de très très bons résultats. Hein. Deux grille-pains sur trois sont réparables en moins de 10 minutes.
Comme neuf.
On a des spécialistes de tout ce qui est machine à coudre, donc n'hésitez pas à ramener vos machines à coudre, là on est très, très fort sur ce type de réparation, et puis après tout est possible.
Quelles autres initiatives sont portées par la régie de quartier ? Comment tout ça s'inscrit dans un projet plus global ?
Alors, dans l'optique de vraiment faire du lien social avec les habitants, on propose ces ateliers. Alors, on peut les proposer en interne, effectivement, chez nous, mais on peut les proposer aussi en externe lors des grandes manifestations sur le Vendômois. Alors, on participe, à titre d'exemple, parce qu'on participe à quand même pas mal de choses, mais à le quartier d'été, au printemps des Rottes, à la fête bio de Bourset, on en fait en fait plein. Et après, on essaie de co-construire avec d'autres associations des événements. Donc on a donné un petit coup de main à Maucouvert sur la mise en place de leur café, leur salon littéraire par exemple. Donc on habille le marché couvert pour l'occasion avec des choses issues du réemploi. On a co-construit avec justement Dodan dont on parlait, mais pas que, Énergie Vendômoise, la fabrique du docteur Faton, Perche Nature, un événement qui s'appelle « Fait-on les possibles ?». Dont l'objectif est de le reproduire de façon biennale aussi. Donc cette année, en 2026, je pense qu'on fera un mini-événement. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en soutien d'autres associations quand elles ont des projets et puis faire en sorte de pouvoir apporter, nous, soit du matériel, puisqu'on en a plein, mais vraiment beaucoup, beaucoup, soit des compétences techniques, soit une co-construction, puisqu'on a quand même aussi pas mal de bras et de forces actives. On a parlé beaucoup des salariés, mais on a aussi tout un réseau de bénévoles avec nous.
J'allais y venir, oui.
Donc en salariés, on a dit qu'on était 20 permanents, mais on a aussi 40 salariés en insertion, ce qui fait une équipe de 60. Mais on a une trentaine de bénévoles actifs. Alors actifs, c'est qui sont là vraiment...
qui donnent du temps, de l'investissement, qui sont dans le conseil d'administration, tout ça.
Voilà, alors le conseil d'administration aussi est très actif, mais je ne les ai même pas comptés dans les 30. Donc on a aussi 13 bénévoles supplémentaires, effectivement. Et les bénévoles, en fait, ils nous accompagnent au quotidien justement pour avancer sur le tri, la réparation, la remise en état des objets.
Ils font partie des équipes qu'on peut croiser à la ressourcerie. Donc on croise sans distinction des bénévoles qui sont là depuis des années et des gens qui viennent d'arriver en contrat d'insertion. C'est ça l'idée, de pouvoir avoir cette mixité autant de bénévoles investis que de gens qui viennent d'arriver et qui ont vocation à ne pas rester mais à être insérés.
C'est tout à fait ça. Et c'est même une particularité qu'on a par rapport aux autres structures d'insertion. Ici, on mélange les bénévoles, bénévoles, les salariés en insertion, les salariés permanents. On accueille aussi énormément de stagiaires de tout niveau. Hein. Ça peut être du stage de découverte de 3e à des BTS et autres. On accueille aussi des personnes qui doivent faire des travaux d'intérêt généraux, des tigistes. Et tout ce petit monde se mélange. Sur nos activités et pour faire avancer un petit peu la transition écologique.
Quels sont les grands projets structurels qui font vivre et qui sont en réflexion au sein de la Régie de quartier? On voit que c'est un organisme qui est vivant, qui est hyper très actif sur le Vendômois. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions structurelles qui sont en cours et dont vous pouvez parler, évidemment, sans trahir les secrets de production qui sont en cours?
Alors là, on a beaucoup parlé de la ressourcerie. Alors, si on continue à parler de la ressourcerie, effectivement, là, cette année, on a ouvert le magasin du centre-ville.
La succursale. Mais,
voilà. Et après, en fait, l'objectif de ce magasin, c'était aussi de faire connaître le projet de la régie à une population qu'on n'a pas forcément toujours ici, de faire découvrir aussi le réemploi et de proposer des choses. Mais c'était aussi, de la part du conseil d'administration, l'ambition de participer à la redynamisation de la rue du Change, ouais. La rue piétonne de Vendôme, qui malheureusement souffre un petit peu de la fermeture de commerce. Alors, c'est pas une particularité effectivement de Vendôme, mais au contraire, à Vendôme, je trouve qu'on est relativement bien loti par rapport à d'autres.
Et assez proactif du coup avec ce genre d'initiative, ouais.
Voilà, et donc l'idée, c'était d'avoir une boutique ouverte, de pouvoir redynamiser un peu les choses, et puis à terme, de pouvoir proposer encore beaucoup plus d'actions. Pour l'instant, le bâtiment qu'on occupe, il est sur 3 étages, 3 niveaux. On n'a réaménagé que le rez-de-chaussée. Mais l'ambition, c'est d'aménager le premier et le second pour pouvoir ouvrir un tiers-lieu. Voilà, un tiers-lieu pour pouvoir faire en sorte d'accueillir des associations avec des projets autour du réemploi et des ateliers. Alors, on a parlé de la couture tout à l'heure. On travaille aussi ici la maroquinerie. On a parlé de la réparation 3E, enfin de ce qui est électrique, électronique. On a plein d'idées, plein d'ambitions par rapport à ça. Pour l'instant, on est un peu limité sur... on attend avec impatience un maçon qui doit nous refaire la façade extérieure, mais pas celle du côté rue, mais de l'autre côté, parce qu'elle a beaucoup souffert. Une fois que le gros œuvre sera en place, en chantier d'insertion, on fera tout le second œuvre pour réaménager les locaux et puis après le proposer en libre service aux structures qui ont envie de faire des choses avec nous sur la question de la transition écologique. Donc ça, c'est le gros projet, on va dire, en stand-by pour l'instant, parce qu'on attend
la réhabilitation pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions et des conditions de sécurité, j'imagine, d'autres structures et des activités et du public. Ouais.
Voilà, et sinon, sur la ressourcerie, on est à quelques mois de l'ouverture d'une deuxième partie du magasin de la rue de Courtiras, donc un agrandissement du magasin, puisque du coup, on a bénéficié de locaux supplémentaires derrière, et donc on va ouvrir d'autres salles pour nos ateliers de valorisation et surtout agrandir grandement le magasin. Donc pour pouvoir permettre de proposer à la vente beaucoup plus d'objets, puisque du coup on en collecte énormément. On fait à peu près 350 tonnes de collecte par an. Donc 350 tonnes, alors ça parle pas beaucoup, mais ça représente quelques montagnes d'objets. Hein. Et après, l'objectif, encore une fois, c'est de faire en sorte que tout ça puisse être réutilisé et en plus en local. L'idée, c'est pas que ça parte du territoire, mais on a quand même une boutique en ligne pour des objets un peu spécifiques qui vont intéresser spécifiquement des collectionneurs, mais qu'on n'aura pas forcément sur Vendôme. Donc on a une petite boutique sur un marketplace qui s'appelle Label Emmaüs, voilà, sur lequel il y a à peu près, genre, je sais plus combien... 800 vendeurs, 800 boutiques.
Alors, Label Emmaüs, la boutique en ligne, Label, pour boutique en ligne, c'est ça, Label, en fait. Et en fait, eux, c'est 95% de livres qu'ils vendent. Mais les 5% restants, c'est énormément de ressourceries sur tout le territoire français qui vendent des objets, des vêtements, en fonction de leur spécialité et de leurs besoins, en fait. Ils imposent rien, ils nous laissent un peu... Il y a des fripiers, il y a des bouquinistes. Nous, on est un petit peu plus sur l'objet.
Voilà, et sinon sur les autres activités de la régie, on a un service espace vert aussi qui se développe beaucoup. C'est un service qui travaille à la fois pour les collectivités, les entreprises, les associations, mais aussi les particuliers.
C'est comme une sous-traitance des agents municipaux qui sont dans l'imaginaire collectif dédié à l'animation et l'entretien des espaces verts.
Alors, sur le marché public de la ville et du territoire, c'est ce qu'on fait effectivement. C'est-à-dire que du coup, avec les agents des services municipaux des espaces verts, vert. On nous donne des missions, donc toutes les semaines, pour les aider et pour voilà, continuer à entretenir la ville. Mais on propose aussi ces services-là un peu à tout type de structures, hein, d'entreprises, de particuliers, d'associations. Et là-dessus, nous, on essaie d'être un peu proactif sur les besoins non couverts sur le territoire. Donc, par exemple, il y avait très peu de personnes, enfin très peu de structures qu'intervenaient sur la lutte contre les chenilles processionnaires. Donc, c'est un service qu'on a commencé à ouvrir. Le nettoyage des coteaux aussi, puisqu'on en a quand même pas mal sur le territoire vendômois. Nettoyage de bords de rivière aussi, puisque c'est voilà, des conditions un petit peu compliquées. Et puis, beaucoup de structures d'espaces verts ont largement de quoi faire sur l'entretien classique de jardin et ne proposent pas ces services-là.
Donc, un positionnement différent de ce qui est proposé ailleurs et par les collectivités et par les entreprises privées. D'accord.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir des services proposés aux habitants qui correspondent aux besoins que ne produisent pas d'autres acteurs. Ouais. Et on a un service aussi de nettoyage qui propose la même chose. Donc voilà, nettoyage donc vide maison, nettoyage de maison, nettoyage de commun et autres. Ce service-là, il propose aussi maintenant beaucoup d'aérogommage, de nettoyage de façade. Alors quand on dit aérogommage, c'est peut-être un terme qui est mal connu. C'est un peu comme du sablage en fait. C'est-à-dire que du coup, on vient avec des nettoyeurs haute pression, on vient décaper, oui voilà, tout type de choses. Alors ça peut être du décapage de bois, de pierre, même de carrosserie, voilà. Donc c'est un service qu'on développe aussi puisqu'il n'y a aucun acteur sur le territoire.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter qui vous permettraient de mieux cerner toutes les activités, toutes les initiatives de la régie de quartier ?
Après, si des structures ont des idées, des projets, nous on peut aussi être là en accompagnement, on peut co-porter aussi des initiatives, tout est possible. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de matériel. Et on a du matériel aussi spécifique pour organiser des événementiels, on a des barnums, on a des tables pliantes, des chaises, enfin on a tout, y compris des machines à glace et des quantités astronomiques de vaisselle en tout genre. Donc on peut tout à fait installer, on a des kilomètres de guirlandes, guinguettes et autres. Voilà, donc l'idée c'est de participer à faire vivre ce territoire et puis proposer tout un tas de festivités en lien avec les valeurs portées par la structure.
Dernière question, comment s'inscrivent les habitants, alors les consommateurs de la ressourcerie, des ressourceries, mais plus généralement les habitants des quartiers justement, de la ville, dans la dynamique, à quel moment, sur quel temps ils peuvent être sollicités pour accompagner vos actions ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a possibilité de nous contacter directement sur notre site internet. Donc, voilà, il y a une rubrique de contact pour les bénévoles, enfin pour les demandes de bénévolat. Après, on peut se présenter aussi directement dans la boutique, dans les boutiques pour pouvoir prendre les informations. Sandrine organise régulièrement
des informations collectives pour plusieurs participants qui se présentent en magasin et qui souhaitent venir faire du bénévolat sur la plupart du temps sur la ressourcerie. Ouais. C'est quand même globalement qu'il y a le gros du bénévolat qui se
fait. Ouais.
Et une fois que j'ai quelques personnes qui sont intéressées, j'organise une réunion collective. Comme ça, ça permet de faire une visite aussi de la structure et d'expliquer les tenants et les aboutissants de notre travail du début, qui est la zone d'apport volontaire, jusqu'à la fin, qui est le magasin.
Voilà, et puis effectivement, nous, on adore travailler avec des bénévoles, hein, c'est l'essence même de la structure. Et puis, en fait, l'idée, c'est de partir de leurs envies. Hein. On peut avoir des bénévoles qui adorent le tri de livres, la mise en valeur des livres. On a des bénévoles qui sont très bons techniciens sur les vélos, sur la réparation. Ça peut être aussi des choses très simples comme nous aider dans le tri de vêtements, parce qu'on collecte des quantités astronomiques de vêtements. On en collecte à peu près 150 tonnes par an, donc ces vêtements, il faut quand même les vérifier avant de les reproposer en seconde main. Il y a plein d'actions très simples à mettre en place, et plus si affinité, évidemment, puisque du coup, dans toutes les engagements qu'on peut prendre sur les festivals du territoire, on cherche aussi du monde pour tenir les stands, etc.
Co-animer un atelier, on est très ouvert à la participation de quelqu'un qui adore fabriquer ou détourner des objets pour en faire d'autres choses. Hein. Ça peut être justement fabriquer des objets.
Voilà.
Là, on a par exemple un projet sur les appareils électriques et de fabriquer des luminaires avec des passoires en fer dont plus personne ne se sert
globalement, ouais.
Et puis qui font pas envie forcément, mais qui
peuvent faire un bel objet
déco.
Luminaire, ouais. Ok.
Voilà. En 2026, on va aussi proposer des portes ouvertes pour comprendre un petit peu, parce qu'effectivement, quand on visite le magasin, on s'imagine pas un petit peu les milliers de mètres carrés derrière sur la valorisation et puis le stockage du matériel. Donc on peut être tenu au courant soit en suivant notre newsletter, donc en s'abonnant sur notre site internet ou aux boutiques du magasin, soit en consultant notre page Facebook, Instagram, voilà, pour suivre un peu l'actualité de la régie. Mais voilà, on va proposer de plus en plus de choses.
On remettra toutes les coordonnées, les sites internet, les pages, les directions vers les réseaux sociaux de la régie de quartier. On a bien compris, donc un lieu bien installé et actif et proactif sur toute cette gestion de l'économie sociale et solidaire. Merci Charles Lavarenne, directeur donc de la régie de quartier, et Sandrine Bernard, coordinatrice des ressourceries de Vendôme. Merci à vous. L'émission est à retrouver en podcast sur le site de Studios F à la page de la Chose Commune. Merci à tous et à toutes.
Merci à toi, Thomas.